penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième émission de cette série du mois d'octobre consacrée à la figure d'un grand saint de l'Église, un père de l'Église, Augustin. Saint Augustin, alors la semaine dernière, nous l'avons laissé dans son itinéraire à Milan et à sa rencontre avec un autre grand saint, Saint Ambroise, qui, si je me rappelle bien, avait été préfet de Milan et s'est retrouvé quasiment évêque du jour au lendemain par acclamation du peuple.
Exactement. Oui, alors, nous avons laissé Augustin.
Mais, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter, c'est Sœur Sarah qui parle et qui interroge Sœur Anne-Claire Favry.
Donc, Saint Augustin rencontre Ambroise. Et vous aviez dit que ça lui permettait de trouver des réponses à ses questions. Comment ça va le faire avancer dans sa recherche? Est-ce qu'il va rencontrer le Christ? Où va aboutir sa recherche?
Alors, en fait, quand Augustin rencontre Ambroise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller écouter Ambroise. Alors, on l'imagine assez bien, d'après ce qu'il décrit dans les confessions, aller se mettre discrètement pour l'observer, écouter ce qu'il dit. Puis finalement, il est intrigué par cet homme qui parle bien. Et puis, le discours le touche. Donc, la parole de Dieu va le rejoindre à ce moment-là. Il va être nourri en fait par les Écritures, commentées, expliquées par Ambroise. Et puis il va aussi être touché par la personne d'Ambroise, qui est un homme de Dieu, qui est un homme de prière, un homme qui, ce qui est tout à fait extraordinaire à l'époque, lit la Bible avec profondeur. Enfin, en tout cas, il s'attendait pas à ça, quoi. Voilà. Et du coup, il va effectivement se trouver donc touché. Et d'une certaine manière, il va à ce moment-là adhérer à la foi de son enfance.
Et en fait, si j'ai bien compris, il y a quand même quelque chose du prestige qui l'attire. C'est-à-dire que cet homme, c'est un homme grand. C'est comme ça qu'il va se retrouver à s'asseoir devant lui, en fait, parce qu'il en a entendu parler.
Tout à fait.
Et c'est toujours cette attirance aussi pour les belles lettres, pour quelque chose de... Oui, qui l'attire.
Oui, tout à fait. C'est la motivation première. Oui. Après, il y a aussi l'influence de sa mère, parce que Monique l'a suivi en Italie et elle le pousse à rencontrer Ambroise. Parce qu'elle espère bien que c'est comme ça.
Toujours là, derrière.
C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, en fait, Augustin est touché et il éprouve le besoin de se retirer avec des amis pour réfléchir. Et à ce moment-là, en fait, il est pris dans un dilemme. Parce que son intelligence adhère à la foi, mais, il pressent que suivre le Christ, ça lui demande un certain nombre de conversions dans sa manière de vivre, qu'il n'est pas prêt à vivre, et qu'il se sent incapable de vivre. En particulier, nous le rejoignons là, dans ses difficultés par rapport aux relations avec les femmes. Nous avons laissé, parce qu'on l'a tout juste évoqué tout à l'heure, dans une précédente émission, la question de quand il arrive à Carthage, finalement, il commence à fréquenter des filles, tout ça. Il va se fixer, ça va durer un an, il va se mettre en concubinage avec une femme dont il taira toujours le nom, et il va avoir d'elle un enfant. Alors, à ce moment-là, c'est pas du tout choquant, parce qu'en fait, on attendait... Comme pour le baptême, finalement, on attendait d'être casé pour se marier. Mmh. Et donc, c'est tout à fait dans les mœurs du temps, un peu comme aujourd'hui, finalement. Mais sous l'influence de sa mère, quand il commence justement à se poser, eh bien, il est temps d'abandonner la concubine pour envisager le mariage. Et il vit ça très douloureusement, parce que quasiment, Monique lui impose de renoncer à sa concubine. On lui dit, on espère pour lui une femme qui est encore une jeune fille. Donc, en attendant, on lui propose quelqu'un. Donc, en fait, il a des relations, mais il est insatisfait par cela. Il sent bien que ça va pas. Il sent bien que s'il suit le Christ, il y a des choses dans ce domaine-là qui vont devoir changer, mais il n'est pas prêt à le faire. Et donc, en fait, il y a tout un combat en lui entre ce qu'il découvre de la vérité et puis, eh bien, sa vie morale, sa vie affective, qui ne suit pas.
Ça aussi, c'est très actuel, en fait.
C'est très actuel. On voit bien cette espèce de dichotomie, en fait, entre les idées et puis le cœur profond. Enfin, bon,
ça rappelle aussi un peu saint Paul. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne voudrais pas faire, je le fais.
Exactement. Augustin expérimente, j'allais dire, dans sa chair, ce que dira saint Paul. Et du coup, il en est là, en fait, avec ses amis. Et à ce moment-là, il va rencontrer des personnes qui vont être des catalyseurs de grâce. Il dit dans les confessions, à un moment, il compare, en fait, à partir du commentaire du psaume 119, cette expérience de conversion avec des charbons. Voilà. Les personnes qui sont là sont comme des charbons qui l'embrasent, en fait. Des charbons ardents, vous voyez, si vous mettez à côté d'un charbon, là, vous allez être embrasé. Bien, au contact de certains témoins, il va être embrasé, en fait, de cet amour de Dieu qui va lui permettre de franchir le pas. Voilà. Et en même temps, eh bien, c'est la parole de Dieu qui va le rejoindre en profondeur. Ça, c'est les flèches de la parole qui vont le rejoindre. Et ça se passe dans le jardin de Milan. Il a reçu un ami qui lui a parlé des moines, de la vie vertueuse des moines de Milan. À Milan, il y a des moines à ce moment-là. Le monachisme est arrivé, en fait, en Occident. Et on lui parle de ça, il est bouleversé, il se trouve vraiment minable parce qu'il est incapable de vivre ça.
Des personnes, en fait, qui ont fait tout ce que lui se sont incapables de faire.
C'est ça, exactement. Et alors, il s'en va dans ce jardin. Là, je dirais, il craque, voilà. Il se met à pleurer d'abondantes larmes et il entend une petite voix qui lui dit « Prends et lis, prends et lis ». Alors, il prend, il lit le texte qu'il tombe sous les yeux, et c'est un texte de saint Paul qui parle explicitement de renoncer à la débauche, etc., etc. Donc, il le rejoint dans son combat, et à ce moment-là, comme il le raconte, en un instant, ce qu'il n'arrivait pas à faire depuis tant de temps lui est donné par grâce d'une manière tout à fait inattendue.
Ah oui, donc de ce qu'il n'arrivait pas à faire, tout d'un coup, ça se résout. De façon mystérieuse.
C'est ça. En fait, c'est une expérience du salut qu'il fait d'une manière fulgurante. Le Seigneur vient le rejoindre dans sa misère pour lui donner la grâce de vivre ce qu'il a à vivre.
Donc, sa volonté va s'accorder avec ce qu'il veut faire. Et du coup, ça va perdurer. C'est durable, cette grâce.
Tout à fait. Et alors, à ce moment-là, du coup, ça va transformer sa vie. Et ça va l'amener dans une cohérence à redescendre de sa retraite pour revenir à Milan et demander à Ambroise de le baptiser.
Ah oui, là enfin il est prêt à faire le pas.
C'est ça.
Parce que vous aviez dit dans la première émission que pour faire le baptême, il fallait être sûr de ne plus avoir de péché après parce qu'on ne savait pas trop, on ne pouvait le recevoir qu'une fois.
Je ne sais pas si Augustin à ce moment-là pensait qu'il n'aurait pas de péché après. Je pense plutôt qu'à ce moment-là, il comprend que pour... vivre de cette foi, vivre de cette grâce qu'il a reçue, il a besoin du baptême, qu'il a besoin de l'Église. Il le comprend aussi à travers les témoignages qu'il a autour de lui, les exhortations aussi de ses amis. Et à ce moment-là, donc, il se décide, et pas tout seul, avec son ami et avec son fils.
Ah.
Voilà.
Adéoda.
Adéoda.
Et on perçoit combien ce qu'on appelle la conversion... Et comme souvent, on pourrait aussi citer le cas de saint Paul, mais de tant d'autres, en réalité, a été préparé. Il y a eu d'abord sa mère, Monique, vous en avez parlé, de cet enracinement quand même, avec sa mère, dans le premier enracinement dans la foi chrétienne, cette recherche de la vérité, donc ce cheminement intellectuel, et puis aussi la rencontre de témoins, de grandes figures. Et tout cela prépare ce moment décisif de basculement. Mais là, pour ce basculement, effectivement, il y a la grâce, c'est-à-dire comme un doigt de Dieu qui intervient à ce moment-là, mais qui
la place de la parole de Dieu à ce moment-là aussi.
Et la place de la parole de Dieu, mais oui, prend et lit, mais qui n'annule pas tout le reste. Et donc, c'est tout à fait intéressant ce cheminement dont vous nous parlez, sœur Anne-Claire.
C'est pas hors sol. Hein.
Voilà. Alors, nous allons poursuivre avec les premiers pas de notre ami Augustin qui maintenant est baptisé.
Alors baptisé, qu'est-ce que fait Augustin ? Eh bien, il va se retirer pour fonder en fait une espèce de petite communauté avec des amis, une communauté d'amis, pour un temps qui... Ce temps va servir en fait à faire l'unité de sa pensée, de sa réflexion. Augustin, je n'ai pas tellement insisté là-dessus dans les émissions précédentes, mais il va avoir glané au fil de ses années de préparation beaucoup, beaucoup de choses, d'idées de son temps, qui ne sont pas forcément des idées explicitement chrétiennes, qui sont voilà, dans telle ou telle philosophie. Et en fait, la communauté qu'il va fonder à ce moment-là avec ses amis, ça va être une communauté de réflexion philosophique. C'est les écrits qu'on a de cette période-là, ce sont les écrits qu'on appelle les écrits philosophiques. Il va écrire des dialogues à la manière des dialogues philosophiques d'un Platon, par exemple. Mais ces dialogues, eh bien, c'est des gens bien concrets qu'on connaît. C'est justement, et par exemple, il y a le Maître intérieur. Le Maître intérieur, c'est des magistraux. C'est une œuvre, en fait, qui est un dialogue avec son propre fils. Des dialogues, alors évidemment c'est rédigé, il y a un processus littéraire, c'est évident, mais qui partent d'une expérience de réflexion commune menée donc dans cette retraite de Cassisiacum, donc dans les alentours de Milan.
Nous allons rester là pour cette semaine. Nous avons encore une émission autour de Saint-Augustin, témoin d'aujourd'hui, c'est le titre d'une session, sœur Anne-Claire Favrique, que vous allez donner les jeudis 17 et vendredi 18 novembre à l'IERP pour tout renseignement, toute inscription, ierp@ict-toulouse.fr, ierp@ict-toulouse.fr. Merci à vous deux et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour terminer ce mois avec Augustin.